Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 852 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. La rentrée d'Invino aujourd'hui en avance, vous nous avez beaucoup manqué. Mais c'est parti pour une nouvelle saison qui va être comme les précédentes, passionnante. Vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine. Et vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9. On peut se retrouver également sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec le tourisme en Australie. Et oui, ça existe, la communication en matière de vin, le vignoble de Moulis dans le Bordelais et le Vino Quiz pour gagner les beaux cadeaux en jouant sur invinoradio.fm. À mes côtés, pour cette grande première, pour cette nouvelle saison, Hélène Pio.
Bonjour.
Toute belle, toute bronzée, ça y est.
Ah ben je rentre de vacances.
Ah ben oui, c'est ça, c'est le gros avantage des vacances quand même. Et puis eux aussi sont très très beaux, hein. Jacques-Olivier Pespe, David Cobol et Philippe Porbac. Bonjour messieurs, tout s'est bien passé, les vacances étaient top.
Bonjour, c'était génial.
Vous étiez où vous Philippe?
J'ai passé quelques jours au Portugal, dans le Douro tant qu'à faire. Ah, c'est quand même très une joli. Très belle région classée par l'UNESCO et tout ça. Et ensuite,
c'est presque aussi beau que le vignoble catalan.
Mais oui. Oui, et puis j'ai évité le côté catalan de l'affaire pour une fois, parce que j'adore y aller, mais j'étais plutôt du côté du Pays Basque, à la limite, dans les Landes. Sur place, on mettait attention, Ondre, c'est côté Landes. Et dès qu'on descend du côté de Bayonne et de Biarritz, là, c'est effectivement le Pays Basque.
Et vous, David, vous étiez chez vous?
Gascogne.
Gascogne.
Oui.
C'est que ça pousse bien l'anglais là-bas. Hein.
Oui, Gascon-Cong.
Jacques-Olivier, vous étiez en terre bordelaise peut-être
en, alors, non, en juillet, je travaillais, j'étais à Napa. Et ouais. En août, j'étais au bord de la mer, pas très loin de Bordeaux, un bassin.
Allez, on accueille donc aujourd'hui un bassin avec des petits bateaux, des huîtres, tout ça. Quoi,
exactement.
Hein. Oh, les petits mouchoirs, on pleure. Alors, Invino Sud Radio accueille notre premier invité, notre premier vigneron de cette nouvelle saison, Victor Gardiès, vigneron au domaine éponyme du même nom. Bonjour Victor.
Bonjour.
Alors dites-nous, c'est une affaire familiale, vous êtes en plein cœur du pays catalan, vous êtes un homme heureux, non? C'est presque aussi beau que le Douro de Philippe Forbrac, de Gers, ou de David Cobol.
On n'est pas trop mal, oui. Bon, on est pas trop mal.
C'est
oui,
familial pas ou pas?
Bien sûr, oui. Ça fait... Bon, moi, je suis la 8e génération.
Ah là, quand même, oui, c'est quand même familial, oui.
Depuis quelques années, avec du coup mon père, ma mère et ma sœur.
Très bien. Hélène Pio?
Alors effectivement, un domaine dont vous êtes la 8e génération, ça fait 2 ans, je crois, que vous êtes arrivé au domaine, c'est ça?
Un tout petit peu plus maintenant, ouais, à peu près 2-3 ans, c'est ça.
D'accord. Et votre père lui-même avait repris le domaine dans les années 90. Est-ce qu'on peut dire que c'est lui qui l'a fait, qui l'a hissé à la renommée qu'il a aujourd'hui?
Oui, parce que le Roussillon, de toute façon, a beaucoup changé depuis. Puisque
vous êtes basé où exactement, Victor? Vous êtes où géographiquement?
Au nord du Roussillon, au début des Corbières. Mais voilà, donc c'est vrai que le Roussillon au début faisait quand même beaucoup des vins doux naturels et c'est mon père qui a commencé les vins secs, donc le domaine tel qu'il est, c'est plutôt mon père qui l'a démarré.
C'est ça, c'est donc on le salue Jean, parce qu'effectivement c'est grâce à lui que toute cette vallée de la Glie là a commencé à faire parler d'elle dans les années 90, à un moment où effectivement on disait le Sud-Ouest, c'était
oui, c'est
une
ça,
très grande région qui allait quelque part de Toulouse à l'Espagne, et débrouillez-vous avec ça. Donc effectivement c'est
ça a changé
notamment parce que il a su mettre en valeur le trésor familial et vous prenez la suite. 5 hectares plantés donc par l'arrière-grand-père Justin Castagny, c'est ça?
Oui, voilà, après c'est assez éclaté, on a beaucoup de terroirs et beaucoup d'altitudes, d'expositions et de cépages différents, mais la partie la plus historique, ça va être sur les anciennes terres, donc ce qu'on appelle, on est déjà au début des Corbières, sur des argilo-calcaires. Voilà, il a commencé avec un peu moins d'hectares.
C'est ça. Aujourd'hui, vous êtes à 35 hectares, je crois. Hein.
C'est ça, voilà.
Voilà.
C'est
ça. Avec de tout petits rendements, 35 hectares chez vous, ça ne veut pas dire forcément qu'on fait des hectolitres et des hectolitres de vin. Je crois que vous êtes en moyenne à 30 hectolitres, c'est ça?
Oui, voilà. Voilà. Sur l'ensemble du domaine, hein, une bonne année, on a une trentaine. Ce qui est général pour une partie du Roussillon, parce que simplement, il y a quand même un manque d'eau. Hein. On a quand même une région assez sèche, puisqu'on est entre les Pyrénées et les Corbières. Donc, beaucoup de vent et assez peu d'eau.
Alors, beaucoup de vent, ça vous aide aussi, puisque ça vous permet notamment d'avoir des vignes suffisamment saines pour pouvoir être certifié en agriculture biologique.
C'est ça, c'est vrai que c'est quand même notre premier traitement, on va dire. Dès qu'il pleut derrière, on a beaucoup
c'est
de vent.
C'est naturel, quoi. Donc, vous êtes un fan de la tramontane?
C'est un peu fatigant tous les jours, mais on s'en plaint pas.
Qu'est-ce que vous dites là? Ça souffle un peu là. Victor, parmi les éléments importants d'une bouteille, il y a également le bouchage. Vous travaillez comment vous?
On travaille un peu de différentes façons. Après, c'est vrai que ça fait pas mal d'années qu'on fait des essais sur un peu toutes nos cuvées. Il faut quand même penser que quand on est vigneron, on travaille toute l'année pour arriver au dernier geste qui est de boucher la bouteille. Donc c'est quand même un geste important. Voilà, on fait pas mal d'essais sur tout ce qui se fait, mettons du diam, des choses comme ça.
D'accord.
Ce sont des bouchons. Il y a de l'intérêt sur différents types de bouchons.
Mais notamment diam, il y a quasiment, de toute façon, il y a plus beaucoup de bouchons. C'est fini tout ça, quoi.
Voilà. L'intérêt, c'est surtout la sécurité qu'on va avoir et puis aussi l'homogénéité qu'on va avoir sur toutes les bouteilles. On sait qu'on va travailler avec différentes porosités. On sait très bien qu'après. On a toutes les bouteilles qui vont être identiques.
Alors justement, c'est le moment important, Victor. C'est Hélène Pieux qui a dégusté un de vos vins, un vin coup de cœur. Alors, on va voir si les coups de cœur. Donc, quel est ce vin d'ailleurs? Vous êtes sélectionné dans la gamme de Victor Gardiès. Quel vin?
Ça s'appelle Les Vignes de mon père. Et c'est une cuvée qui a une histoire particulière parce que elle change chaque année et de parcelle et de cépage. C'est ça, Victor?
C'est ça. En fait, on a commencé il y a pas mal d'années. Le principe, c'était de pouvoir montrer la variété de terroirs et de cépages qu'on peut avoir. Toujours sur des vins un peu sur le même principe, on travaille sur des choses assez brutes. Le but, c'est vraiment de préserver le jus et le goût du terroir qu'on va avoir autour.
Allez, dis comment ce vin, Hélène?
Donc, Les Vignes de mon père 2017, c'était un Macabeu cette année-là. Et bah, écoutez, moi, j'ai eu un grand coup de cœur. Un très joli nez, poire, amande, pêche. En bouche, une très légère amertume, à la fois de la rondeur et de la nervosité. Et c'est chouette parce que le Macabeu, c'est pas toujours un cépage qui a une très, très grosse personnalité. Et là, on a vraiment un vin dont on se souvient, qui peut se déguster très frais à l'apéritif ou un peu plus vers 12-13 degrés sur un rouget à l'escabèche. Moi, je l'ai fait sur des grillades de viande blanche, tout simplement. C'était super bon, c'est régalé.
Combien ça coûte une bonne bouteille, Victor, chez vous, ce blanc?
Ça varie. Là, Les Vignes de mon père, c'est quand même des petites cuvées, donc on a une trentaine d'euros.
30 euros. Merci beaucoup, en tout cas. Merci également à vous, Hélène Pieux. On profite de rappeler que Perpignan, cette année, est la ville européenne du vin. InVino sur Radio retrouve maintenant Jacques-Olivier Pesme, qui est CEO advisor et professeur en wine business à l'Université de Colombie-Britannique et également à Adélaïde en Australie. On parle de tourisme aujourd'hui, Jacques-Olivier?
On parle de tourisme et plus précisément d'expérience visiteur à Adélaïde. Je vous rappelle quelques petites nouvelles, un sujet sur lequel nous travaillons beaucoup ces derniers temps, celui de l'expérience visiteur. En fait, on en parle beaucoup. Les questions qui se posent, c'est quel type d'expérience les domaines, les propriétés, les wineries, s'ils veulent-elles offrir? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui marche? Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça marche? Est-ce qu'on veut beaucoup de visiteurs? Est-ce qu'on veut une réalité économique derrière? Est-ce qu'on veut traduire une histoire? Autre type de question, les expériences au sein d'une région, se doivent-elles être homogènes ou distinctes, de façon à rendre les visites complémentaires? Je vous amène à Adélaïde, on est en Australie du Sud, dans la région de McLaren Vale, qui est, alors on connaît bien la région d'Adélaïde souvent pour Barossa, mais c'est une appellation très connue de la région d'Adélaïde. Et parmi les passages obligés du parcours touristique depuis Adélaïde, vous ferez très probablement une halte à la winery d'Arenberg.
Et elle est très très connue pour ses vins, je suppose.
Alors, elle est connue pour ses vins, elle fait partie de ces wineries importantes de la région, et que son propriétaire est une figure locale, mais il m'est très compliqué de vous présenter les vins en quelques mots, car ils font tout, du rouge, du blanc, du rosé, du sparkling, du fortifié. On a plus de 50 flacons différents, les prix vont de $15 australiens, ce qui fait grosso modo une dizaine d'euros, à plus de $250, donc on a vraiment une gamme ou des gammes extrêmement larges. En réalité, ce pourquoi d'Arenberg est connu, c'est le site qu'il a créé en 2017, un lieu complètement excentrique et controversé qui s'appelle le Cube.
Alors, qu'est-ce que c'est le Cube?
Alors, imaginez un Rubik's Cube, vous voyez ce jeu, posé en plein milieu des vignes.
Hélène Pieux adore ce jeu.
Pardon? C'est multicolore, pareil?
Non, il est en noir et blanc avec des grandes baies vitrées, 20 mètres de hauteur, multifacette, 5 étages. Chaque étage proposant une expérience un peu loufoque, une salle immersive à 360 degrés, des ateliers sensoriels un peu partout, dans un décor complètement décalé, un mur de fruits, plein d'expériences tactiles et bien sûr tout de même, business is business, une tasting room et un restaurant aux étages supérieurs, un truc dingue, évidemment controversé et donc tout le monde y va.
Donc ça marche super bien.
Ça marche, c'est assez incroyable. Ils ont ouvert en 2017. Autrement dit, 2018 fut le premier exercice d'exploitation en année pleine. Résultat sur une première année, 140 000 visiteurs.
C'est énorme.
$10 la visite, faites le calcul. Un investissement quasiment intégralement privé de $15 millions. Mais à ce tarif, ça va évidemment vite être rentabilisé. Surtout que, dans le même temps, s'agissant d'une expérience tout à fait iconoclaste, Le panier moyen est passé de 66$ avant la construction à désormais 115$ par visiteur.
Jackpot. C'est incroyable, je peux dire.
Mais c'est un sacré personnage.
Ah oui, c'est un sacré personnage. C'est Chester Osborne, qui est un gars complètement loufoque, à l'image d'ailleurs de ce qu'il a fait. Ouais. Alors évidemment, l'univers créé joue la carte de la décomplexion, plus de l'excentricité. Je vous l'ai dit, on organise des bals costumés, des soirées excentriques.
En quoi êtes-vous déguisé, Jacques-Olivier ?
Ce qu'on veut.
Ah, Casanova, le Casanova de...
Absolument ce qu'on veut. Alors là, c'est sûr qu'il n'y a absolument aucun code. Il faut quand même souligner que Chester...
On n'a pas eu la réponse.
Pardon.
On n'a pas eu la réponse sur le bal costumé.
Ah oui, non, moi je suis allé de façon tout à fait traditionnelle. J'ai représenté la French Touch.
Pour ouais. C'est très bien.
Chester Osborne, quatrième génération.
Très jolie grappe, hein, j'ai connu.
Évidemment, un personnage iconoclaste, c'est ce que je disais, et qui fait partie du décor, qui se la joue très cool, mais qui est surtout un incroyable businessman, comme toujours. Alors on pourrait dire, c'est possible en Australie, parce qu'on fait partie de ces régions du Nouveau Monde, mais en fait, non, pas du tout, ça colle pas, parce que Darenberg a été une winery qui a été créée en 1912, donc plus de 100 ans d'existence déjà. En fait, et je reviens sur ce que je disais en introduction, plus que l'onotourisme qui demeure pour moi un terme très large qui intègre beaucoup de choses, ce qui est travaillé ici, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle l'expérience visiteur. Quel type d'expérience veut-on donner, veut-on transmettre, et surtout comment s'y prend-on pour transformer l'éveil des sens en acte d'achat.
Les trois derniers points clés à retenir, Jacques-Olivier.
Penser lors des visites à visibilité des gammes, évidemment, dans le lieu où on achète, mais surtout derrière ce qu'on appelle le back bar, là où il y a les tasting rooms, il faut qu'on puisse voir. Point numéro un, faites des visites payantes, arrêtez, visites gratuites, ça c'est un truc. Non, alors évidemment, ça c'est un enjeu.
Un choc culturel.
Ça vous impose la qualité, mais ça fait aussi partie de l'exercice. Point numéro un, c'est extrêmement important. Réservation, on doit pouvoir réserver online. Ça vous permet d'anticiper, de gérer les flux, de préparer vos équipes. C'est très, très, très important. Et puis, il y en a plein, beaucoup de choses, conseils que l'on pourrait formuler sur la maximisation de l'activité des visites qui constitue, j'insiste, un formidable gisement économique et booster pour les marques et les domaines en France. J'emprunte cette phrase, je ne sais pas si elle est de Don Juan. Si je suis satisfait, je rentre assuré. Si je suis conquis, je rentre accompagné.
Merci beaucoup Jacques-Olivier Pesme, merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour le Vino Quiz et tenter de remporter un excellent cadeau en jouant sur invinoradio.fm.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave Nicolas, place de la Madeleine, pour cette première émission de cette nouvelle saison. On est très 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 heureux de vous retrouver avec Hélène Piau et le Vino Quiz.
Oui, je vous rappelle le principe si vous l'avez oublié cet été. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un super beau cadeau, un abonnement d'un an à la Revue du Vin de France. Voici la question de ce week-end. Quelle est la particularité du restaurant The Cube situé près de la ville d'Adélaïde en Australie ? Réponse A, il ne sert que des cubis d'un litre ou plus à ses clients.
Cubis, c'est aussi bien ça. Ouais.
Réponse B, il propose des dégustations de vin au sein d'un univers moderne et excentrique. Ou réponse C, il possède un spa proposant des soins anti-âge à base de vin dont on sort avec la tête carrée. Pour répondre et gagner un abonnement d'un an à la Revue du Vin de France, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
C'est parfait, ces questions sont parfaites. Merci beaucoup Hélène Piau, Invino Sud Radio. Retrouve David Cobol, qui n'a pas la tête carré, hein, cofondateur de l'Académie du vin de Paris. En revanche, vous allez communiquer aujourd'hui. On communique. Qu'est-ce qui se passe sur la communication dans l'univers du vin, David?
Je pense que si certaines personnes écoutent cette émission, j'aurai peut-être la tête carrée d'ici peu.
Ah.
Parce que j'en ai un peu marre de ce que j'appelle le pipeau et la gonflette dans la communication sur le vin.
Oh.
Vous donner quelques exemples et dire que aussi, nous, les journalistes, on doit aussi prendre un peu de recul quand on écrit des articles. Donc cette idée m'est venue de faire cette chronique lorsque j'ai lu récemment dans un article dans la revue, le magazine Terre de Vin, qui racontait le lancement de la dernière cuvée de Gérard Bertrand, qui était un cuvée de rosé vendu à 190€. Et j'avais l'impression...
C'est de l'escroquerie, ça. Hein.
Et j'avais l'impression de lire une communiqué de presse. C'est-à-dire que le journaliste n'a pris aucun recul. C'était une copie conforme. On lit des choses comme lis ou faites le menu des repas du lancement à la presse. Quel est l'intérêt pour présenter une cuvée? Ensuite, il dit aujourd'hui, Gérard Bertrand invitera au Bernardin. Il avait invité chez Guy Savoy à Paris. Donc, la liste des restaurants prestigieux, les menus que les gens vont manger. Mais quel est l'intérêt? Ensuite, servir. Alors, après, on a du pipeau. Pour la pipeau, Le vin à la belle étoile dans lequel Gérard Bertrand délivrait ses pensées profondes, fruit entre autres de la lecture de Rudolf Steiner. J'aimerais bien savoir quelle lecture, parce que quelqu'un qui était anti-alcool d'abord, doublé d'un raciste et d'un fou, on se demande ce qu'il a lu de Rudolf Steiner. Et on a une espèce de bouli-bougou. Je ne sais pas comment ça s'est dit, une espèce de méli-mélo. On commence à parler de...
En français, c'est
globi-bouga. De spiritualité, de verticalité, d'horizontalité, de profondeur. Je ne sais pas de quoi on parle. Et tout ça pour justifier un rosé vendu à 190 euros. Je dis d'abord, c'est de la gonflette, et ensuite, c'est du pipeau, ou c'est du pipeau, et puis de la gonflette. Autre exemple. Je donnais un cours récemment
avec... Précisons quand même que le magazine Terre de Vin est un excellent magazine, très sérieux. Donc là, vous avez droit de réagir à un article, David.
Peut-être, mais là, la personne qui a écrit cet article ne fait pas son travail du journaliste.
Eh ben, écoutez, Terre de Vin, ils sont les bienvenus pour venir vous répondre, David.
Oui, non, mais là, c'est une copie-collée de communiqué des presses. Je dis, c'est n'importe quoi. Je lisais une contre-étiquette d'un vin dans un cours que je donnais l'autre jour. C'est un vin du Sud-Ouest, un Pacheringue du Vic-Bil, fait par Alain Brumont, qui fait, au demeurant, d'excellents vins. Mais derrière, qu'est-ce que je lis ? Fait partie des plus grands vins liquoreux du monde.
Mais ça, c'est du Brumont. Brumont, il a le meilleur vin du monde tous les jours, lui.
Ben, tous ces vins sont les meilleurs vins du monde.
Non, mais c'est donc, pour ça qu'il est insupportable.
Je dis, quand même, un peu de modestie. On ne doit pas dire ça. Si quelqu'un, c'est un journaliste ou un amateur de vin, dit c'est le meilleur vin du monde, très bien. Mais ce n'est pas au producteur de le dire. Donc, il faut arrêter la communication ronflant, hyperbolique et totalement dépassée.
Ouais, bah on va réagir à sa décharge, il n'est pas le seul. Pour ce qui est d'Alain Brumont, il n'est pas le seul.
Il est d'une arrogance, d'une prétention incroyable. Quoi. Enfin, ça fait 20 ans qu'il bassine, qu'il est le meilleur vin du monde.
On est bien
jour,
d'accord,
quoi,
mais
ça.
Je suis arrivée un jour en Argentine et j'ai une dame qui m'a serré la main dans un domaine en me disant « Bonjour, bienvenue au domaine qui fait les meilleurs vins blancs du monde ». Elle était très sérieuse.
Elle plaisantait ou pas ?
Mais pas du tout.
C'est Brumont, elle plaisante pas, lui. Hein.
Non, non, mais elle non plus. Donc ça arrive partout sur la planète.
Et toutes les régions, généralement, se présentent comme une région unique où on fait les meilleurs vins du monde. C'est de bonne guerre aussi.
D'ailleurs, je ne voulais pas encore dire, mais je suis la meilleure journaliste du monde.
Non, mais que Philippe, David ou vous, Hélène, vous pensiez que ce vin est excellent et le meilleur du monde, voilà, c'est votre avis. Très bien. Que le vigneron s'autoproclame meilleur du monde, c'est plus compliqué.
Non, mais c'est insupportable, c'est ridicule. Donc, je trouve qu'il faut arrêter
d'être
tout ça.
D'être en pleine forme, entre vacances, hein.
Non, mais tout ça, c'est trop. Et puis, un journaliste qui se contente de ça pour parler du vin, or qu'il y a très, très peu d'informations techniques sur le vin. Il parle un tout petit peu des parcellaires, il parle un tout petit peu des cépages, mais les 7 huitièmes de l'article, c'est le récit du menu et de Rudolf Steiner. On s'en fiche pas mal de Rudolf Steiner. Il est mort depuis longtemps.
Merci beaucoup, Philippe Orbach. Merci également à vous, Hélène Piau, Jacques-Olivier Pest, David Cobold. Et merci également à Charlotte qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien. À la technique, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.fm ou notre page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée chez le caviste Nicolas, fondé en 1822. Nous parlerons de beaucoup de sujets, notamment on recevra les deux lauréats du concours Vigneron et Terroir d'Avenir organisé par Advini, Montpellier Supagro et sa fondation. Ça y est, c'est le moment. Bon déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.